1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon?
Oui, maintenant c'est Claire Morin qui s'empare des ondes de Fréquence Z sur l'instant collectif. Gardez l'écoute, c'est tous les événements impératifs du collectif Synergie.
À l'occasion de cette première émission 2021, j'ai le plaisir d'accueillir deux artistes, à savoir Olivier Rec et Denis Marulaz. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Olivier.
Écoute, bonjour Claire.
Pour commencer, je vais t'inviter à te présenter, s'il te plaît.
Alors, se présenter, oui, bah, écoute, moi c'est Olivier Rec, chanteur breton maintenant, principalement, puisque je suis retourné vivre en Bretagne depuis quelques années. J'ai pas mal officié sur Paris aussi, dans des répertoires différents, pas forcément le mien toujours. J'ai fait du music hall, pas mal de chansons différentes, mais disons que j'ai voulu revenir en Bretagne pour m'axer sur mon répertoire à moi, qui tourne autour des chansons de la mer, chansons sur mon pays, sur cette région, voilà.
Alors ça fait combien de temps que tu écris ou que tu composes de la musique?
Alors que j'écris du texte, j'ai toujours écrit, je crois, depuis que je suis gamin. Et puis petit à petit, je m'étais mis à faire des textes pour des copains musiciens, en fait, des copains déjà qui chantaient. Et puis petit à petit, je sais pas, ça m'a donné envie de mettre la musique, de composer pour moi aussi. J'avais un petit peu touché une guitare quand j'étais ado, mais je savais pas plus s'accrocher que ça, comme quoi, des fois, paradoxalement. Hein. Et puis, sur les coups une vingtaine d'années, entre 25 ans, comme ça, j'ai commencé vraiment à vouloir me remettre à composer plus de la musique que jouer, du coup, j'ai jamais été un très bon instrumentiste. C'était plus la composition et l'orchestration qui m'intéressait. Du coup, j'ai pris des cours avec des arrangeurs, orchestrateurs, tout ça, des guitaristes, pianistes. Et puis petit à petit, bon an, mal an, j'ai réussi à faire mes propres mélodies, mes propres chansons. Donc, je pense que le résultat n'est pas trop mal.
Alors, tu joues quand même d'un instrument, de la guitare ou pas du tout?
Maintenant, oui, quand même. Je me suis remis depuis quelques années à... Parce que voilà, les conditions sont tellement compliquées, actuellement encore pire, mais avant déjà, pour pouvoir payer des artistes sur scène, que bon, pour faire des petits spectacles abordables, le niveau est indépendant, donc du coup, je me suis remis à la guitare pour m'accompagner, et bon, voilà, ça, c'est propre, c'est correct, j'arrive à faire un spectacle sympathique. Après, pour des choses plus conséquences, bien sûr, que je préfère avoir des musiciens, c'est plus confortable, il y a un son plus évolutif, c'est sûr. Hein. Mais je suis autonome, voilà, avec ma guitare, je peux faire quelque chose de propre et de sympa.
Oui, j'ai remarqué ça. Et du coup, au niveau écriture, quels sont les thèmes que tu aimes aborder et ce qui t'inspire?
Bon, tout m'inspire, hein, la vie en général, l'amour, la spiritualité, le show, le mysticisme, et puis bon, comme tu dis, ma région, hein, j'aime beaucoup ma région, tout ce qui s'en dégage, aussi bien le côté, peut-être plus le côté marin, mais j'aime bien aussi le côté terrien. Et puis autrement, pas mal de causes qui me tiennent à cœur, hein, comme la cause animale principalement, environnementale, puis l'humanisme, hein, surtout en ce moment, on a bien besoin d'avoir des gens qui pensent que l'homme peut rester libre et intègre.
Oui, c'est vrai que le contexte actuel pousse encore plus à le faire, et moi je pense qu'effectivement, en tant qu'artiste, on a aussi le devoir de donner sa voix à ceux qui n'en ont pas.
Ah, complètement, oui. Mais comme j'avais dit, il y a 2-3 ans, j'avais écrit une chanson qui s'appelle « Je me bats pour faire entendre ma voix ». Et ça m'avait été un petit peu inspiré, on va dire, par le mouvement Gilets jaunes. Je ne dis pas que j'adhère à 100%, bien que leur cause soit vraiment bien défendable. Mais là, ce fait voilà, d'aller jusqu'à ce bout-là, pour pouvoir faire entendre sa voix, ses questions, ses révoltes, voilà, ça m'a inspiré cette chanson qui tourne autour aussi des artistes qui, des fois, ne peuvent même pas se faire entendre leur voix, parce qu'ils sont verrouillés au niveau des radios, au niveau des... Voilà, c'est toujours les mêmes qui sont là. Mais si on regarde bien le show business, c'est un peu le reflet aussi du système gouvernemental qu'on vit. Hein. C'est toujours les élites qui sont en avant et les autres derrière. Hein. Faut pas se voiler la face.
Oui, après, il y a des artistes qui sont comme nous, j'ai envie de dire, qui en fait un réseau, mais un réseau qu'ils ont constitué eux-mêmes, qui effectivement n'ont pas forcément de producteurs, de managers ou de tourneurs derrière pour faire le travail, pour démarcher et tout ça aussi.
Bah voilà, c'est ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas à s'en sortir, mais je dis voilà, c'est très compliqué et qu'il faut se débrouiller par nous-mêmes. Parce qu'autrement, c'est toujours les mêmes qui sont en avant par les grosses distributions. Voilà, c'est. On revient, disons que c'est ce que je voulais dire, le showbiz est le reflet un peu de l'esprit actuel du monde, quoi, en fait.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as produit depuis que tu as commencé dans le milieu artistique?
Bah, c'est vrai que mon niveau chanson, si on peut dire, je suis assez prolixe. Hein. Je dois avoir au moins presque une douzaine de CD. Bon, c'est sûr qu'ils ne sont peut-être pas tous, toutes les chansons, c'est peut-être pas 100%, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien coucher sur CD, si on peut dire, tout ce que j'ai fait. Ça laisse une trace. Alors c'est vrai que c'est pas toujours 100%, surtout les débuts. On a des, mais bon, je pense que tout est assez comme ça. Hein. Il y a des très bonnes chansons, puis d'autres qu'on met en plus. Quoique maintenant, plus en plus, c'est de faire des CD aboutis, ce qu'on appelle, vraiment de faire une sélection. Mais c'est compliqué. Moi, j'ai toujours du mal à trancher comme ça. C'est vrai que c'est, pour l'artiste, c'est dur de dire tiens, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Puis des fois, c'est subjectif. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on aime, que les gens aiment moins, et quelque chose qu'on pensait pas très bon. Finalement, ça fait. C'est comment le public adhère alors, hein, c'est rigolo.
C'est ça, on n'est pas forcément les plus habilités pour juger son propre travail en fait. Prendre du recul, c'est pas toujours évident.
Tout à fait, oui. Parce que il suffit qu'on se mette dans une chanson qui vous implique, je sais pas, émotionnellement ou autre chose, et on se dit tiens, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui me. Puis bah, l'écho finalement auprès du public est moins bon. Puis quelque chose qui, avec lequel on était plus détaché, bah, c'est ça qui accroche. Voilà, donc, ça reste, il y a une part de magie qui reste là, hein, heureusement.
Est-ce que tu as eu des collaborations à l'occasion de la sortie de tes albums?
Oui, moi maintenant, au début, j'en ai fait pas mal, parce que c'est vrai que sur Paris, je faisais partie d'un collectif, pas comme le tien, mais d'autres compositeurs, et on essayait de se mélanger, et on prenait un texte à un copain, l'autre prenait une musique, ou carrément on essayait de faire quelque chose ensemble, ou l'un tel interprétait un autre titre, ouais, c'était vraiment un. Donc je fais quelques chansons comme ça qui sont même plutôt bien, voilà. Maintenant, j'essaie de tout faire moi-même. J'ai un ou deux auteurs amis depuis longue date avec qui, de temps en temps, je prends un texte par amitié, on va dire. Mais aussi parce que le texte est bon, et voilà. À une époque aussi, j'avais mis pas mal de textes de mon père en musique, voilà aussi. Notamment pour une comédie musicale qui n'a pas vraiment vu le jour, qui est entièrement produite, écrite, mais voilà, c'est compliqué de trouver les fonds.
Ah oui, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre, effectivement, même au niveau culturel.
Ah, c'est dommage.
Alors, il me semble que tu voulais faire un focus sur un album spécifiquement, à savoir Cœur de Breton.
Oui, c'est vrai, je voulais revenir un petit peu sur cet album qui a peut-être 3 ans maintenant. Un peu plus de 3 ans, oui. Parce que c'est un album, justement, que là, pour le sens, que je trouve très abouti dans son unité, dans sa globalité, dans l'orchestration, dans le thème abordé, voilà, c'est vraiment Cœur de Breton, le titre définit bien le cœur de l'album. C'est, on sait que ça parlera de la Bretagne, défense culturelle, tout ça, c'est avec des mélodies assez sympathiques, je pense, et du rythme, tout ça, quoi, la poésie.
Alors, on va écouter la première chanson qui s'appelle Cœur de Breton. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce titre, de son historique?
Et ben justement, Cœur de Breton, là, c'est d'où le nom de l'album, c'est quelque chose que j'ai envie de dire depuis quelques temps. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est pas forcément une carte postale folklorique ou touristique. Il y a aussi quelque chose derrière. Il y a des hommes et des femmes. Voilà, un cœur qui bat et qui n'a pas forcément celui qu'on met en avant. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont je parle avec humour parfois aussi. On pourra voir ça en l'écoutant.
Merci beaucoup à toi. Nous écoutons maintenant Cœur de Breton.
Gagner le cœur des Bretons n'est pas chose aisée et qu'il faut du temps. Mais nul besoin de se coiffer de chapeau rond, de parader là comme un goéland. La Bretagne est une terre d'aventure, faite de légendes et de magie. On ne peut y venir en caricature, prétendre aimer sa nostalgie. Cœur de Breton et cœur sincère, et de tout temps un cœur fidèle. Il aime chanter, il aime danser, cœur de Breton et cœur de fer. penser à l'histoire de ce pays, ne pas seulement en goûter le fruit, faire l'effort de dépasser le vieux cliché de la bigouden sur son noir rocher. La Bretagne n'est pas qu'une carte postale, un livre ouvert ou refermé. Bien plus qu'une terre, c'est tout un idéal, un art de vivre, un art d'aimer. Cœur de Breton et cœur sincère, et de tout temps un cœur fidèle. Il aime chanter, il aime danser, cœur de Breton et cœur de fête. Je veux dire à ceux que l'ignorance gouverne, attention aux arbres, attention aux pierres, attention à ce que le monde moderne peut détruire ou marquer au fer. La Bretagne m'a pris par le cœur pour m'emmener dans ses sillons, à mon tour de lui faire honneur dans mes images, dans mes chansons. Cœur de Breton et cœur sincère, et de tout temps un cœur fidèle. Il aime chanter, il aime danser, cœur de Breton et cœur de fête. Cœur de Breton et cœur sincère, et de tout temps un cœur fidèle. Il aime chanter, il aime danser, cœur de Breton et cœur de fête.
Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu as œuvré dans d'autres domaines artistiques que l'écriture ou la composition ou jouer d'un instrument ?
Oui, bien sûr, parce que comme moi, à la base, moi j'ai fait les Beaux-Arts à Lorient. Donc j'étais plus dans le graphisme, tu vois, à une époque j'étais graphiste aussi, même infographiste aussi, je travaillais sur ordinateur, mélange de dessin, dans la pub, tout ça, voilà, je fais pas mal de choses, du packaging, des refus touristiques, un peu de tout quoi, qui se rapporte au graphisme, et aussi des expos bien sûr en tant qu'artiste libre.
Et du coup pour tes albums, c'est toi qui crée les visuels ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge ?
Non, globalement c'est vrai que c'est moi qui fais parce que j'aime bien encore le faire, voilà. C'est pas forcément que je peux pas faire confiance à d'autres, mais c'est que comme c'est quelque chose qui m'a toujours bien plu. À une époque, dans mes dernières occupations, j'ai eu la chance de participer assez largement à la création des pochettes du Raider Digest. C'est le Raider Digest à l'époque qui avait une collection de CD qui était propre, c'est-à-dire qu'il refusait des compilations pour les artistes, comme Jean Ferrat, Barbara, tout ça. Et il faisait appel à une boîte de graphisme pour refaire des pochettes spécialement. Et moi, j'étais un des principaux qui le faisait, voilà. Donc c'est quelque chose que je connais bien.
Et quels sont les artistes que tu affectionnes ou qui t'ont influencé dans les différents domaines que tu pratiques ?
Alors ça, c'est toujours vaste, parce que c'est vrai que moi, j'aime un peu tous les styles de musique. Hein. J'étais élevé au classique, principalement. Puis moi, très vite, je me suis intéressé aussi à la chanson française, au... Voilà, pop anglaise, rock américain, donc c'est très vaste, hein. Moi j'aime tout, je fais une sélection dans tout. Bon, un de mes chanteurs préférés, parce que moi je l'ai connu aussi, la famille l'a bien connu, c'est Alain Barrière qui nous a quittés. Je lui ai fait un bel hommage du reste. Autrement, toutes les chanteurs à texte un petit peu d'époque passée, on va dire. Après, La Ferré, Jean Ferrat, j'adore. Voilà. Et autrement, la musique classique, j'aime beaucoup. Les musiciens de films, tu vois, j'aime comme Ennio Morricone, Vangelis, tout ça, voilà. J'aime beaucoup la musique de film aussi, la musique d'expression comme ça. Et puis la pop, le rock aussi, voilà. Et plutôt dans des couleurs un petit peu plus passéistes, quoi. Donc, j'accroche un peu moins sur ce qu'on fait maintenant. Peut-être parce que c'est y a trop de rythme et pas assez de mélodie, pas assez de texte, je sais pas, je pense, c'est ça.
Et du coup, sur tes albums, tous les styles, on retrouve un petit peu tous les styles, ils sont tous bien, bien représentés. Et au niveau en fait, des rythmes aussi, en fait, tu as beaucoup de morceaux dansants et de paroles qui font autant voyager que réfléchir, en fait.
Bah, je te remercie, oui, c'est un peu ça. J'ai envie de mélanger les choses agréables à écouter, de la poésie, puis parfois, essayer de... de passer un petit message qui peut réveiller les consciences, si on peut dire, à tout niveau.
Et c'est vraiment quelque chose que tu cherches à mettre en avant, la diversité, en fait, sur tes différents albums?
Oui, contrairement à certains qui aiment bien se faire mettre dans des cases, moi, personnellement, non, pas du tout. J'ai même fait une chanson là-dessus, quoi. Je pense qu'un artiste, même si c'est lui qui fait de la chanson, si demain, il se met à faire une chanson plus rock'n'roll ou une chanson plus classique, on n'a pas eu de dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est nouveau? Je pense que c'est sympa de toucher un petit peu à tout, tout en restant soi-même dans l'intégrité, dans ce qu'on a envie de dire, mais on ne peut pas s'enfermer comme ça dans un style, hein. Je pense que c'est ça. Ça, c'est mon avis et mon envie, quoi.
C'est ça. Après, c'est vrai que le public, des fois, a tendance à apprécier qu'en fait, un artiste reste dans une case, on va dire, à entendre que du rock de la part d'un artiste, parce que c'est pour ça qu'ils ont adhéré au début, ou que de la pop, ou que quelque chose. C'est vrai que ça demande aussi au public, du coup, de s'adapter derrière.
Ouais, mais je pense qu'un artiste dont personne n'arrivera le talent, qui nous a quitté maintenant, qui est Johnny Hallyday, et ben, si tu regardes bien, il est passé par beaucoup de styles, et en fin de compte, bon, c'est vrai que c'est un des plus gros. Les plus grosses peintures françaises, mais le public s'est toujours adapté, il a toujours suivi, il a joué dans ses différents styles.
Oui, tout à fait, voilà, faut prendre le risque, en fait, quoi.
Bah oui, je pense qu'on prend peut-être pas assez de risques, hein. C'est vrai que, à part certains, hein, qui le font, hein, mais c'est vrai, effectivement, ouais, c'est, on est pas mal. Je vois surtout maintenant, je veux dire, il y a des gens qui sont dans l'urbain, des fois ils vont en sortir, mais non, ils restent avec ce côté-là, donc ils osent pas prendre la voix, ils sont toujours dans le même rythmique. Alors ça peut lasser aussi, je veux dire, parce que surtout dans la musique urbaine, c'est un peu toujours les mêmes rythmes, les mêmes façons, donc c'est compliqué, quoi.
Alors du coup, pour en revenir à ton album Cœur de Breton, est-ce qu'il y a différents styles de musique présents dessus?
Non, là-dessus, je te dis, c'est vraiment très typé bretonnant, avec des couleurs celtiques, des instrumentations celtiques, et puis des textes qui parlent vraiment de la Bretagne, des gens qui habitent, des paysages, voilà, un petit peu de tout, de la poésie, le côté un petit peu légende celtique, tout ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment un album qui est au cœur de la Bretagne, dans le cœur breton.
Alors nous allons écouter ton deuxième morceau tiré de cet album qui s'appelle Western. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît?
Alors Western, oui, justement, c'est une vision poétique aussi d'une île dans laquelle je me sentirais vraiment très bien, parce qu'il y aurait ce que j'aime, et c'est pas mal belle île qui m'a inspiré pour moi. Bon, toutes les îles sont belles, hein, en Bretagne ou ailleurs, mais voilà, moi c'est Belle-Île qui m'a inspiré pour cette chanson. Et on retrouve un petit peu ce côté grand espace. Pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle western avec le haut, pour donner un côté cow-boy, un côté voilà, américain presque, dans le bon sens du terme.
Oui, effectivement, en Bretagne, il y a beaucoup de paysages qui peuvent faire penser au western, avec les grands espaces, pas toujours beaucoup de population sur certains lieux. Et effectivement, moi, en tant que Slammy T. Jane, étant née, comme je disais, au Far West et au bout de la Terre, effectivement, bah, ça me parle bien comme morceau.
Merci.
Alors, j'invite les auditeurs à écouter Western.
Écrit
maison dans la prairie, c'est mon western.
Ton actualité et qu'est-ce que tu comptes mettre comme projet en place pour plus tard?
Actualité, hein, comme je vais être banal, comme beaucoup, est arrêté quasiment. Donc, on espère pouvoir reprendre quelques festivals sur cet été, mais comme c'est compliqué, dans le sens où on n'a pas les données, donc les gens ne s'y mettent pas vraiment. Donc, moi, pour l'instant, je suis plus dans la création. Voilà, je me suis mis sur deux projets d'album, justement. Bah, tu vois, deux opposés. Là, je suis sur un projet d'album un petit peu assez rock et un autre complètement classique orchestral. Tu vois, donc deux visions différentes. Voilà, c'est ce confinement forcé m'a du coup forcé à trouver un échappatoire très rapide et c'était la création, mettre sur autre chose. Puis je continue un petit peu à exercer mon métier d'arrangeur pour quelques autres artistes, heureusement. Ça me fait un petit peu de rentrée d'argent. Au niveau des contrats, non, c'est le câble plat, là. On n'en a vraiment rien de prévu. Je sais pas quoi te dire de plus.
Oui, c'est ça. Nous, on aurait aimé pouvoir aussi éventuellement te proposer des concerts et te proposer de rencontrer un public éventuel, faire ta promotion. Après, c'est vrai qu'effectivement, on peut pas le faire en physique, j'ai envie de dire, avec du public. Mais c'est vrai qu'avec le collectif, vu qu'on a dû reporter tous nos événements ou en annuler certains, effectivement, dès qu'on pourra te faire venir, on t'invitera avec plaisir. Et après, on essaye vraiment de garder le contact avec les artistes du collectif. Ben justement par le biais de cette émission de radio là et de la radio et faire comme on peut quoi parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident et qu'on n'a pas vraiment de perspective au bout quoi.
Non malheureusement, c'est vrai qu'entre parenthèses je me suis mis à faire quelques directs live Facebook que j'essaie de maintenir sur une cadence tous les 15 jours pour que les gens soient au rendez-vous, ceux qui me suivent de très près, les amis, les connaissances, qui essaient d'élargir un peu le public. C'est sympathique, mais ça remplacera jamais les concerts. Hein. Et là, je sais pas où on veut nous mettre, mais c'est compliqué. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Ou je sais, ce serait trop long d'en parler.
Alors oui, comme tu le disais, on peut te retrouver donc sur Facebook. Et où est-ce qu'on peut se procurer éventuellement pour les auditeurs qui voudraient découvrir un petit peu plus avant ton univers? Où est-ce qu'ils peuvent se procurer tes albums ou t'écouter?
Bah, c'est vrai que là encore, c'était souvent les concerts pour les albums. Autrement, bah, pour m'écouter, c'est toutes les plateformes habituelles, hein, Deezer, Bandcamp, et puis toutes les plateformes de téléchargement, comme la Fnac, Amazon, enfin tout. Partout, ça se télécharge également. Et puis mon site, bah, c'est www.olivierrec.com. Voilà, il y a des vidéos, des clips, pas mal de choses à découvrir.
Alors, je rappelle que Rec, ça s'écrit R-E-C-H.
Tout à fait, oui. Alors, oui. c'est une écriture bretonne, ouais, du coup. Et on peut comment aussi me commander par une boîte de souscription, enfin une boîte, une petite adresse de souscription que j'ai mise en place aussi pour les gens qui ne peuvent pas assister à des concerts. Donc, on peut me le commander par correspondance. Sinon, tous les albums sont en écoute sur le site, donc voilà, les gens voient ce qu'ils ont envie. Et ça suit comme ça pour l'instant. Après, j'ai quelques magasins sur Redon et sur Vannes aussi qui me distribuent. Voilà, mais ça reste local, quoi.
Oui, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'auditeurs qui ne trouvent pas forcément en Bretagne. On est écouté un petit peu à travers le monde. Donc, c'est bien de pouvoir exporter un petit peu aussi la musique des auteurs ou en tout cas des artistes bretons un petit peu partout dans le monde, quoi.
Oui, ben justement, c'est pour ça que je suis sur Bandcamp. Bandcamp, c'est un site américain où il y a beaucoup d'artistes qui sont mis, c'est indépendant. C'est bien rétribué et voilà, c'est principalement en téléchargement, mais il peut y avoir aussi des CD physiques. Mais là, justement, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont en Irlande, qui sont, sont en Amérique, qui sont au Japon, ouais, ils peuvent nous écouter grâce à ces plateformes de streaming qui sont très bien faites, quoi.
Oui, et puis vu le contexte actuel, c'est pas forcément facile de voyager, donc heureusement qu'on a encore l'art pour avoir une fenêtre d'évasion et pouvoir se sortir un peu de sa tête, on va dire.
Complètement, oui, c'est vrai. On est un peu vraiment frustré là, ça devient difficile. Et encore nous, on n'est pas les plus malheureux parce que moi je suis tout proche de la mer, je suis à Vannes, donc voilà, c'est. Tant qu'on nous met pas des confinements à moins d'un kilomètre de la maison, ça va.
Bah, on croise les doigts, hein. Là je pense qu'on n'est pas loin d'un troisième reconfinement. Je croise les doigts pour que ça ait pas lieu, mais bon voilà. Si jamais vraiment on y arrive, effectivement, bon, il va falloir continuer en tant qu'artiste à créer chez soi. Et puis, pour le collectif, voilà, on essaie de mettre des choses en place et de se projeter quand même pour quand on pourra de nouveau recréer des événements, remettre des événements en place sur les lieux, notamment avec nos partenaires. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est un petit peu coincé, quoi.
Ouais, mais là, je pense du coup que c'est peut-être à nous les artistes aussi de commencer aussi à se réveiller. Puis, à prendre nos vies en main, il y a peut-être des choses à faire, hein, peut-être pas forcément de taxer de révolte, d'insurgé, de complotisme, mais tout simplement de réagir déjà et de voir ce qu'on peut faire, parce qu'on va pas cesser tuer en silence comme ça sans rien dire, je veux dire, c'est pas possible.
Après, il y a des alternatives pour effectivement continuer à proposer son art et pas se couper de son public, on va dire, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va être des solutions alternatives, quoi.
Bah oui, parce que ça, non seulement ça nous enlève le fait d'échanger avec les gens, d'avoir des rapports humains, des rapports affectifs, mais en plus c'est que financièrement ça rentre pas comme ça, je veux dire. Hein, je veux pas te... Voilà, si on fait pas de concert, si on vend pas de CD, donc il n'y a pas d'entrée d'argent quasiment, donc c'est... Où va-t-on ?
Oui, je suis plutôt d'accord.
Enfin, ouais, c'est positif, et c'est dire qu'il y aura sûrement quelque chose qui va sortir de là, de bien, espérons. Enfin, ça sera grâce à nous, c'est quelque chose qui sort, ça sera pas grâce à ceux qui nous dirigent, en tout cas.
Oui, c'est sûr. Après, moi, je sais pas comment on ferait, en fait, si on était à leur place non plus. Après, c'est un vaste débat, c'est vrai que c'est compliqué.
C'est pire, si on peut dire, parce que à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux, quoi.
Oui, puis il faudra bien que les lieux culturels rouvrent aussi, les restaurants, les bars, les, voilà, tout ce qui permet de s'exprimer, de se retrouver quand même aussi, quoi.
Ou l'arrête, la terre arrête de tourner à ce moment-là, je sais pas, mais il faut. Alors, quand il continue de dire, hein. Et justement, bah, ça nous aussi, voilà, peut-être aussi de prendre le taureau par les cornes. Peut-être que les artistes sont trop sages en ce moment, voilà. Avant, ils étaient plus virulents, hein, je sais pas. C'est vrai que j'en connais que je trouve la profession très calme en ce moment. Peut-être quelque chose se prépare en douce. On va bien voir.
L'avenir nous le dira.
Voilà.
Alors, je te propose de parler un petit peu de ton morceau « Un arbre m'a parlé ».
Ah oui, bon, on va revenir justement sur la poésie et les légendes. Un arbre m'a parlé, c'est parce que moi, depuis des années, j'ai toujours aimé fréquenter aussi les forêts, me mettre au dos contre un arbre. Je dis pas que je suis un druide, hein, mais je trouve ça très, très apaisant, ces vibrations qu'on trouve dans la forêt. Et j'ai envie de faire une chanson, en fait, où le fait que ce soit pas moi qui parle à la nature, mais c'est la nature qui s'adresse à moi. Donc c'est l'arbre qui parle, qui raconte une histoire, et puis des légendes autour des enfants et tout ça.
Alors, est-ce que tu as écrit aussi des textes pour plus en direction d'un public jeune ou d'enfant?
Une l'époque, c'est vrai qu'on a justement la comédie musicale dont je t'ai parlé, on l'avait adaptée pour un jeune public. Et on avait fait que ça s'appelait la forêt des murmures. Voilà, la forêt des murmures. Et on avait adapté ça dans les écoles, on a fait quelques belles représentations. Et c'est vrai que c'est un public qui est très, très agréable. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les chansons aussi spécifiques. Nous, c'est quand même quelques chansons qu'on avait adaptées. Et c'était pas 100%, voilà, ça s'est bien passé quand même. Mais c'est vrai que le registre enfant, c'est très particulier. Il faut vraiment écrire pour eux, et musicalement, et au niveau du texte. Ça, c'est une vraie démarche, hein. Peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, défendre l'enfance, ça me tient à cœur, ça c'est sûr.
Alors, tu connais peut-être Jean-Luc Roudot aussi, un artiste breton ?
De nom, non, je connais pas personnellement, non.
Oui, voilà, de nom, et c'est parce qu'il intervient aussi avec les enfants. Effectivement, c'est vrai que c'est une démarche spécifique de faire écrire de faire écrire les enfants et d'écrire pour les enfants.
Complètement. Si, moi je connais Clarisse Lavanant qui à une époque aussi fait un album, un spectacle pour les enfants. Voilà. C'est pareil, c'est une démarche très particulière qui continue pour enfants, ça s'appelle.
Et du coup, pour Un arbre m'a parlé, c'est surtout les forêts bretonnes qui te parlent ou c'est la nature en général ou...
C'est vraiment c'est ouvert à tout le monde, c'est en général les forêts qui me parlent avec ces. Bon, c'est vrai que peut-être un peu plus bretonne parce qu'on peut dire qu'il y a tout le petit peuple, des fées, des corrigans et tout, mais qu'on peut retrouver ailleurs, hein, qu'on peut retrouver en Norvège, qu'on peut retrouver dans tous ces pays de légende. Mais non, c'est surtout la vibration de la nature, quoi, le fait d'entendre une forêt, de toucher les arbres, de regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a comme une musicalité, il y a comme un silence même qui vous parle. Voilà, il suffit d'écouter.
Merci à toi. Alors nous allons maintenant écouter ce que l'arbre a à te dire.
Un arbre m'a parlé, il s'est penché pour mieux m'instruire. Les rêves sont volés, on cache la clé sous un menhir. Quand le lac est gelé, l'hiver au pays des grands chênes, il est aisé d'aller jusqu'au rivage des plaines. L'arbre raconte qu'un soir, des enfants errèrent longtemps en proie au désespoir, cherchant en vain la clé d'argent. Rêve de neige, rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que de se résigner. Le rêve nous délivre des affres du passé. Ne chante plus, trop longues sont les nuits, sans rêve quand le sommeil n'est plus. On cherche encore la clé, mais les menhirs restent de pierre, et sans rien dévoiler des origines du mystère. Une fois n'est pas coutume, on s'incline devant la nature, on reste dans la brume quant au devenir du futur. Rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que de se résigner. Le rêve nous délivre des affres du passé. Uréa air, uréa glao, uréa bugel, son joue d'aguitat. L'arbre, il attend plus dans la vallée que la pierre et le marbre, comme les menhirs durent parler. La clé fut mise là par un sorcier, un vilain gnome. Ce dernier ne peut pas rêver comme rêvent les hommes. Le rêve est revenu du long silence des pierres. On chante dans les rues. Rêve de neige, rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que de se résigner. Le rêve nous délivre Aglao, Uré Bugel, son joue d'Aguitat, Uré Aher, Uré Aglao, Uré Bugel, son joue d'Aguitat.
Bon, eh bien, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour finir cette interview ?
Bah, une bonne dose d'espoir, voilà, de positivité pour continuer d'exister. Parce que c'est vrai que j'invite tous ceux qui ont des idées ou qui ont envie de changer les choses, à se mobiliser, voilà, à rester fraternel, à mettre du cœur à l'ouvrage, parce que je pense que la solution viendra de nous, hein, elle viendra pas d'en haut. Parce que, voilà. Depuis tout le temps, le en haut a toujours voulu écraser le en bas. Donc si le en bas réagit pas, ça sera dramatique.
C'est ça, rester tous mobilisés en attendant de sortir de cette crise, quoi. Et puis, bon, s'évader, comme on disait tout à l'heure, s'évader avec les artistes aussi, et puis, voilà.
Ouais, se recentrer sur l'essentiel, profiter de la nature, profiter des gens qui nous entourent, quand même, voilà, pas hésiter à faire tout ça. Et à venir nous écouter.
Ah oui, aussi.
Sur les plateformes, tout au moins, et en radio, déjà. Merci à toi, Claire. Merci au collectif.
Bah, merci à toi d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et ce sera un plaisir de t'accueillir dès qu'on le pourra sur scène, en physique.
Merci beaucoup à toi. C'est super.
Bonne journée à toi.
Allez, Kenavo.
Kenavo.
J'espère que vous avez apprécié cette première interview. Nous allons continuer cette émission avec Denis Marulaz. Alors bonjour Denis.
Bonjour.
Alors pour bonjour. Commencer cette interview, je vais t'inviter à te présenter.
Alors je m'appelle Denis Marulaz, ça fait déjà 70 ans que je porte ce nom-là. Et je suis auteur de théâtre, de récits poétiques, de contes. Je fais plein de choses autour de mes textes, autour de mon écriture.
Je crois savoir que tu crées des livres aussi.
Alors, comme j'ai jamais trouvé personne, sauf il y a 4 ans de ça, j'ai eu un livre édité, sinon je fabrique moi-même tous mes livres si je veux en avoir. Parce que les imprimeurs, ça coûte une fortune. Et donc, je me suis appris tout seul à fabriquer des livres à l'ancienne, avec une perceuse électrique et de la ficelle à rôti. Si on va sur mon blog Ombre de Nada, dans les tiroirs, on voit les faiseurs de livres, on voit comment je fabrique un livre avec une perceuse électrique.
Ah, c'est original, effectivement, tu manques pas d'idées ?
Bah, disons que nécessité fait loi, hein, comme on dit, et c'est impossible, ça demande des fortunes pour se faire, si on paye soi-même l'impression, quoi. Donc j'ai décidé de faire mes bouquins et puis de les faire beaux en plus, donc voilà.
Et comment tu en es arrivé à écrire ?
Ah bah alors, j'ai beaucoup, beaucoup écrit depuis l'âge de 13-14 ans, tu vois. On avait un service de cantine au collège où il y avait deux services. Donc ceux du premier service, ils allaient manger, puis moi j'étais au deuxième service. Et on avait une étude, et moi au lieu de réviser mes leçons et de faire les devoirs pour le lendemain, j'écrivais de la poésie. Voilà, j'essayais de faire du La Fontaine à l'époque. Voilà, je disais, tiens, je vais écrire comme La Fontaine, des histoires. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, après je suis sorti de La Fontaine, et puis au cours des années, j'ai écrit, parce que j'ai fait un travail après quand je suis monté à Paris. J'ai été muté à la poste à l'époque, on montait à Paris, donc je travaillais tout seul la nuit. Alors ça me laissait quand même énormément de temps, et là j'avais plein de choses à raconter, et je me suis mis à écrire, voilà, dans des carnets, sur des papiers, à dessiner aussi, j'ai beaucoup dessiné. Et c'est parti comme ça. Et puis après j'ai eu la chance de rencontrer des troupes de théâtre, on m'a demandé, tu voudrais pas écrire un texte, et puis peu à peu, voilà, je m'y suis mis, mais bon, ça a pris du temps, et puis après, j'ai découvert mon écriture, vraiment, quoi.
Est-ce que tu écris de la poésie aussi ?
Alors, j'écrivais, au début, j'écrivais aussi de la poésie, et même, j'écrivais avec les rimes en ion, les rimes en elle, les rimes en ur, les rimes en tout ça, et puis à un moment, j'ai dit, mais attends, j'écris pas sur du papier millimétré et tout ça, moi, je suis... J'écris des mots, donc je vois pas pourquoi je mettrais un clou à la fin de chaque machin et tout. Donc je suis parti je me suis libéré, quoi, de ça. Mais par contre, dans mes textes, par exemple, j'ai pas mal de textes qui j'appelle des récits poétiques. Donc je vais à la ligne tous les 3-4 mots, tu vois, un truc comme ça. Mais ils sont pas rimés, mais il y a un rythme. Il y a de la musicalité et surtout c'est des surgissements d'images. C'est-à-dire que c'est des mots, mais ces mots ils sont tellement chargés d'images que ça fait comme un feu d'artifice. J'essaye, tu vois, que ça soit visible aussi, quoi, que ça soit pas que du texte.
C'est ça, pour t'avoir déjà lu, effectivement, on peut appeler ce que tu fais de la prose poétique.
Ah oui, oui. Alors, et en plus, du coup, ça me libère beaucoup, parce que j'aime pas, moi, avoir des barrières, des machins fixes. Ça va, je suis plus à l'école. Et quand j'ai commencé à écrire, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans mon texte. Parce que j'écris des récits poétiques, ça dure 80, 120 pages, 130 pages, tu vois. C'est des longs textes, quoi. Mais je peux pas dire, le jour où je commence à écrire les premières lignes, qu'est-ce qu'il y aura à la fin, j'en sais rien. C'est comme si, à chaque fois, c'est un tiroir qui s'ouvre dans ma tête, et hop, ça commence à sortir. Et moi, je suis le script. Je suis le script de la source qui, d'un coup, vient de surgir.
C'est ça, tu te laisses conduire par l'inspiration et ce qui vient spontanément.
Alors, en fait, parce que bon, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la vie, ou choses comme ça, et là-dedans, ça mijote tout seul, tu vois. Sans que alors, bien sûr, j'ai des coups de colère, j'ai des coups de machin quand j'écoute les infos, les trucs comme ça. Ça s'emmagasine. Et puis ça travaille là-dedans. Et un beau jour, il y a comme un drapeau qui se lève, qui dit youhou, prends ton crayon, c'est l'heure, j'espère que t'as un carnet prêt et tout. Et oui, ben, j'ai toujours un carnet prêt, au cas où. Alors, c'est pas tous les règles, je me dis pas, ben, ça va être tous les week-ends, tous les. Non. C'est quand ça le dit, ça le fait. Place. Et pour mes personnages, c'est pareil, j'écris des pièces, je me dis pas au début, alors il y a monsieur machin, madame truc, et puis ça va finir comme ci, comme ça. C'est pas ça, c'est pareil, c'est eux, d'un coup, ils sifflent dans les doigts et disent « Eh oh, Marula, c'est là, hop, on a quelque chose à te montrer », et c'est eux qui démarrent.
Alors justement, voilà. En parlant de ça, je vais t'inviter à effectuer ta première lecture.
Ah oui.
Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas nous lire ?
Alors, ça se passe dans une pièce qui s'appelle « Ligne de fuite », ça se passe dans la cité, donc il y a les bâtiments, tu vois, de 4-5 étages, là, il y a quelques arbres, il y a quelques cubes de béton qu'un artiste a mis là, alors c'est le rendez-vous de la jeunesse, on vient boire un coup, on vient fumer, on vient draguer, enfin bon, on fait ça, et puis il y a une dame qui est là, qui est une SDF, elle s'appelle Odile, et elle a fait comme souvent, j'en ai vu dans les rues de Toulon, de Lyon, avec une carriole, un caddie du supermarché du coin, où il y a leurs affaires entassées, des choses, et puis ben, ils dorment où ils peuvent, tu vois. Et donc elle dort sous l'arbre, là, comme ça, sur des cartons, et au-dessus de chez elle, sur un balcon, il y a un vieux ronchon alcoolique, monsieur Cavichy, qui en a marre à chaque fois qu'il va sur son balcon de la voir en bras avec son caddie et tout, et il lui gueule après. Et là, elle vient de se faire engueuler, Odile. Et elle fait ses confidences, elle a un petit personnage, un petit ours en peluche qu'elle a trouvé dans la rue, et elle lui fait ses confidences, et là, vient de se faire engueuler, voilà ce qu'elle lui dit. Pauvre gars, qu'est-ce qu'il y comprend, hein? Trop bas qu'il est, au fond de sa boutange. Là, pas les yeux pour voir. Des beaux yeux, frais comme nous. C'est Kiki. Je suis sûr qu'il regarde jamais là-haut. Qui lève jamais la tête en l'air vers tes étoiles toutes brillantes, vers la Grande Ourse. La Grande Ourse, c'est ton pays, hein. C'est de là que t'es venu pour me cajoler, pour me consoler, pour me tenir bien chaud, bien doux. Bon, c'est dur, tu sais, d'être toute seule, à même pas avoir un vrai coin pour se blottir quand il fait froid, quand il pleut, quand c'est tout triste au fond, quand il y a les mots des autres qui te mordent avec leurs dents toutes pointues et qui te lâchent pas et qui s'éloignent comme si tu pues, comme si t'as la gale. C'est pas ma faute, moi, si je suis par terre avec mes cartons, mon chariot, mes fringues toutes moches, toutes qui puent. Pourtant, je les lave des fois, hein, tu m'as vu. Mais l'eau toute seule, quand t'as pas le savon, les produits, les trucs qu'il faut. C'est pas ma faute, moi, si je suis là toute seule, si maman l'est morte. C'est les parties comme ça, sans rien me laisser, même pas sa maison qu'ils ont donnée à l'autre méchant. Toutes nos affaires, ils les ont mis à la poubelle ou qu'ils ont pris pour je sais pas qui. Je trouve ça normal, les autres. La fille de l'ancienne concierge, ben là, elle est là, dehors, sous la flotte, à dormir sur son carton, elle n'a pas de maison. Mais c'est normal, sa mère, elle n'avait qu'à pas. Puis c'est elle qui veut bien. Là, une place toute prévue, à l'asile, chez les dingues. Chez les dingues? Non, mais pour qui me prennent? Je suis pas plus ma boule que leur pomme, qui se prennent la tête pour tout un tas de trucs, un tas de machins, ils savent même pas quoi. Ils en ont jamais assez. Ils trouvent qu'il y a trop de gens sur Terre, qu'il faut en foutre à la poubelle. T'es toujours trop ci, t'es toujours trop ça, t'es trop noir, t'es trop beurre, t'es trop blanc, t'es trop rouge, t'es trop jaune, t'es trop vert, t'es trop bleu. Ils peuvent pas voir quelqu'un qui ne ressemble pas sans avoir envie de le mouliner. Et c'est moi qui est dingue, qui a sa place à l'asile. Non mais on n'ira pas là-bas, hein mon kiki à moi. On n'ira pas derrière leur vilain mur tout noir, derrière leur fenêtre toute sale, pleine de grillages, qu'on voit même pas les étoiles à travers. Tu veux pas avoir une plante verte qu'elle crève tout de suite tellement qu'il n'y a pas de lumière qui passe. C'est toujours tout gris, avec des gens qui n'ont plus leur tête, qui crient toute la journée, ou alors qui dorment en bavant tellement qu'on les bourre de cachets, de piqûres. Ah, mais pas les piqûres, hein, Kiki. Pas les piqûres. Ils peuvent se les garder, leurs piqûres. Donc, qu'à se les mettre où je pense. On n'en a pas besoin de leurs piqûres. On n'est pas malades, nous. Hein, Kiki? Nous, on ne demande rien. On ne demande rien à personne. Juste qu'on nous foute la paix. Qu'on nous laisse tranquilles sur notre carton. À regarder ces étoiles, à écouter ce qu'elles nous disent. Parce qu'elles nous parlent, les étoiles. Elles nous parlent, et surtout, elles nous chantent, hein, Kiki, hein. Elles nous chantent au creux de l'oreille des mots tout chauds, des mots tout doux. Et toi aussi, hein, tu les entends, les chansons des étoiles. Hein, voilà, ça c'est ma Odile.
Ah, c'est un personnage très touchant qui me fait penser à un des textes que j'ai écrit qui s'appelle SDF aussi. Ah, et oui. Du coup, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et du coup, ça m'a mandé à demander, est-ce que tu as fait toi-même du théâtre?
Ah ben alors oui. Alors j'ai commencé le théâtre, en fait, j'en avais un peu envie. Et puis en 2002, on s'est séparés avec mon épouse. Et je me suis retrouvé tout seul à Paris. Et je me suis inscrit, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis inscrit à un cours de théâtre dans une MJC. Et là, je suis tombé sur des gens vraiment extraordinaires. Alors, un gars qui est connu maintenant, qui s'appelle Nicolas Roméas, et à l'époque, donc, ils avaient un petit théâtre, ça s'appelait, enfin, le Atlas Théâtre, voilà, Atlas Théâtre. Et donc, j'ai commencé, là, alors, on a avec Garcia Lorca, avec Tchekhov, tout ça, les premiers pas sur les planches, et là, j'ai dit, ça, c'est là que je veux être, quoi, c'est un monde génial, quoi. Et on faisait des nuits du théâtre, des fois, une fois par mois, le nuit du théâtre, ça durait jusqu'à 5 heures du matin. Et on se régalait dans des intros, dans des textes qu'on avait écrits, dans des personnages comme ça. Et c'était vraiment les filles de Bernard Alba, par exemple. Et j'ai commencé le théâtre comme ça, donc ça c'était en 82. Et puis après, je suis parti dans le Var, puisque j'ai été muté à la poste. J'avais demandé le Sud, je suis allé dans le Sud. Et là, je suis tombé encore sur des théâtreux, j'ai eu la chance. Dans le petit village où j'étais installé, il y avait une troupe de théâtre dirigée par deux vieilles personnes, et puis une troupe voisine où il y avait pas mal de jeunes gens qui étaient en lycée et puis qui faisaient du théâtre aussi. Et donc le prof, qui était aussi metteur en scène, et ils ont toujours leur théâtre. Et il avait vu un peu ce que je faisais, il me dit « mais tu voudrais pas écrire pour nous ?» Et là, j'ai écrit plusieurs pièces pour Guy-Maurice Carlier et la troupe du Théâtre du Lendemain. C'était un vrai bonheur. Alors, je suis allé les voir travailler, et puis j'ai écrit une première pièce. Et puis après, pour la deuxième, hop, je voulais qu'ils grimpent un peu, tu vois, dans les savoir-faire et tout. Donc, je corse un peu plus les actions, les textes et tout ça, pour faire monter un peu le niveau, j'allais dire, à ma façon. Voilà, j'ai écrit des choses, mais c'est toujours, alors, il faut, parce que souvent on dit, il leur faut des trucs rigolos et tout. Moi, alors, il y a des beaux moments dans mes pièces, mais il n'y a pas de trucs rigolos où je ne suis pas là pour ça, quoi. Franchement. Moi, je pars du principe, c'est, on a la chance d'avoir la parole, on va en faire quelque chose. Donc, je crée des situations choquantes, révoltantes, on assiste à... Il y a une scène dégueulasse, on assiste à quelque chose de pas bien, et ben, hop, mes jeunes personnages disent « Ah non, mais c'est pas possible, on va pas laisser faire, quoi. » Et ils vont intervenir pour que ça bouge. Voilà. Et je veux, en même temps, que le théâtre, ça serve presque à avoir une fierté d'avoir défendu quelque chose par le travail qu'on a fait, en prenant un personnage, en le poussant jusqu'au bout, et en soutenant une idée, en soutenant un combat, quoi. Je sais pas, je peux donner quelques titres, si vous voulez. Par exemple, j'ai « Il parle ». Alors, il parle, c'est un tout petit chapiteau de cirque qui s'est installé sur la place du village. Et puis, il y a le directeur du cirque qui, en même temps, lui, il présente une attraction. Alors, le dimanche, il profite qu'il y a le marché. Et puis, son attraction, c'est un singe, un soi-disant singe savant, et lui fait faire des tours. Alors, par exemple, il est très savant. Par exemple, tu demandes au singe quelle est la couleur d'une tomate, hop, il te montre un ballon rouge. Quelle est la couleur d'une salade? Hop, il te montre un ballon vert. Tu vois, c'est vraiment, c'est un être qui a l'air quand même de connaître, d'être intelligent, d'être. Et puis le problème, c'est qu'il se fait engueuler par ce dompteur là qui l'engueule parce qu'il a marché sur le pied de quelqu'un sans faire exprès, parce que il a dit un mot de travers. Et il y a deux jeunes filles qui disent mais c'est pas possible, qui disent mais c'est pas possible, ce bestiau il a l'air tellement beau, tellement bien, et puis il se fait engueuler, mais c'est dégueulasse. Et elle décide de venir dans la nuit, de venir pour kidnapper le singe, le fameux singe savant, et puis de le libérer de ce mec qui lui gueule après à longueur de temps. Et donc elles vont venir. Et puis, d'un coup, on va découvrir un être extraordinaire, et c'est une superbe amitié qui se crée entre ces deux jeunes filles et puis ce personnage bizarre, et ça va bien finir. Voilà, ça finit presque avec un drame, et d'un coup, waouh, ça finit bien. Mais elles ont changé, du coup, elles ont fait changer les choses.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu as produit dans les différents domaines artistiques dans lesquels tu œuvres ?
Alors, déjà, le fait de faire des livres, alors déjà je dessinais avant, mais du coup je fais pas mal d'illustrations pour mes livres. Par exemple, j'ai deux bouquins qui sont exclus, j'allais dire, il y a le texte, c'est l'Apocalypse selon Zeugmet. Bon, et bien celui-là, je l'ai traité de deux façons, le livre ordinaire avec trois petits dessins noirs et blancs, et puis le livre d'artiste avec 12 dessins, les 12 dessins de l'Apocalypse que j'ai fait, c'est 12 dessins format A3, au crayon couleur, et ils sont magnifiques, ça fait un bouquin magnifique, quoi, voilà. Après, je m'amuse à faire comme ça des livres qui sortent vraiment de l'ordinaire, quoi, qui est dans un autre format. Après, je fais donc des dessins, je fais beaucoup de fusains, j'ai fait pas mal de fusains à un moment, alors c'est extrêmement salissant, j'allais faire ça à la cave, parce que ma méthode de fusain, alors je fais pour un fond, je vais passer un crayon, mais après, ma méthode, c'est je fais des traces d'eau sur un papier, et puis, je réduis du fusain en poudre et je souffle sur les traces d'eau. Et j'attends que ça sèche, et après je souffle, donc ce qui est pris par l'eau, ça reste sur le papier, le reste ça s'en va, et je donne un coup de fixateur, et ça fait des fusains, mais jamais tu peux le faire si tu faisais morceau par morceau, quoi. C'est du geste, c'est vraiment que du geste, et il faut faire ça à la cave, ça fait extrêmement salissant. C'est pas des méthodes que je recommande en appartement. Et puis, mais c'est beau, quoi. Ensuite, j'ai fait des dessins, beaucoup de dessins en crayon couleur, ça j'aime beaucoup, mais il y a des moments je me dis comment t'as fait ça, parce qu'aujourd'hui peut-être que j'aurais du mal. Et sinon, alors j'ai changé là depuis 4 ans, donc je fais mes promenades de santé parce que je fais un peu de diabète, donc le toubib il m'a dit il faut faire au moins 1 heure de marche par jour. Alors je fais des photos dans la rue, mais pas des photos de la maison du machin ou de la cathédrale à côté. Moi, un chewing-gum écrasé par terre, un pot de peinture qui s'est éclaté par terre pendant que des ouvriers étaient en train de peindre des volets et tout. Et sa vie pendant quelques mois, à la chaleur, au froid, sous la flotte, il y a des vélos qui roulent dessus et tout. Et quand tu te penches sur une tache de peinture comme ça, mais c'est ce que j'appelle mes pariétales urbaines, c'est-à-dire que tu vois de la vie là-dedans, t'as des personnages presque qui surgissent, t'as des choses comme ça. Alors je le photographie, la tache blanche, là, comme ça, et je la retravaille après sur mon logiciel et tout, et ça fait des tableaux, waouh, mais c'est un bonheur, quoi. Je les vois surgir au fur et à mesure que je bouge les boutons de contraste, de couleur, et j'en ai fait des centaines et des centaines. Et j'en ai plein.
Et tu en fais des cartes postales aussi.
Alors, j'ai fait des cartes. Alors, les cartes postales, oui, il y a ça. Et les cartes poétiques. Alors, j'appelle ça des cartes poétiques parce que la plupart, elles ont des textes, des extraits de textes poétiques de mes textes. Et puis, avec une illustration que je rajoute par-dessus. Donc, ça fait texte et illustration. Et ça fait des jolis objets, quoi, vraiment.
Et alors justement, en parlant d'objets, combien de livres du coup tu as sorti ? Est-ce que tu les sors en auto-édition ou alors tu as un éditeur pour les sortir ?
Ah ben non, alors là ma grande recherche, le Saint Graal, le jour où je trouverai un éditeur. Pour le moment, en livre édité, j'ai un, parce que j'avais monté une asso avec des jeunes gens à Lyon, et donc j'ai deux bouquins qui ont été édités par cette association, dont un qui est fabriqué à la main quand même, mais qui a un numéro d'ISBN de l'association. Et puis un qui est passé dans une imprimerie, voilà, donc qui est trois petits coquelicots. Celui-là, c'est l'édition, mais l'asso, elle a disparu depuis longtemps maintenant, hein, donc l'éditeur est plus là. Je le sais parce que j'en fais partie. Donc, voilà. Et sinon, j'en ai un qui a été un cadeau, parce que j'écris pour le théâtre amateur, et donc il y a un comité de lecture à la FNCTA, qui est la Fédération de théâtre et d'animation, et qui a choisi un de mes textes pour... Et c'est eux qui l'ont fait éditer chez un grand éditeur, par contre, de théâtre à Paris, qui s'appelle L'Œil du Prince. C'est la librairie théâtrale qui fait ça. Et donc, j'ai un livre édité chez un éditeur, un éditeur de théâtre patenté qu'on voit dans les festivals de théâtre.
Et si les, auditeurs souhaitent découvrir ce que tu as produit, où est-ce qu'ils peuvent se procurer tes œuvres?
Alors, pour se les procurer, alors, à part ces deux bouquins, bon, c'est, voilà. Sinon, tous mes bouquins, c'est moi qui les fais, et il faut me contacter, mais pour les voir, on va sur mon blog, donc, Hombre de Nada, comme je disais tout à l'heure, Hombre de Nada, ça veut dire homme de rien, c'est espagnol, Hombre de Nada, Hombre de Nada, blogspot.com. Donc, on tombe sur mon blog, et là, il y a une colonne tiroir. On va dans les tiroirs, on les livre, et dans les livres, il y a en bas, on tape sur les titres, et ça ouvre une fiche lecture. Alors, on voit la photo du livre, hein, que, comment je l'ai fait, puis il y a un blog, il y a une partie aussi où c'est les faiseurs de livres, donc là on voit fabriquer des livres, mais là on voit tous mes livres et avec un extrait de texte, donc on peut voir un peu ce qu'il y a dedans, et là on voit tous mes livres, et puis dans les facteurs de livres, et ben, on voit les ateliers où je fabrique mes bouquins et comment j'ai initié des enfants à fabriquer des livres. Ils sont devenus des auteurs illustrateurs faiseurs de livres à 9-10 ans. À ça, pendant 3 ans, j'ai fait ça dans des écoles. Ça a été un grand bonheur dans ma vie de voir les gamins sortir. « Maman, j'ai mon livre !» Et fier, comme tout.
Oui, c'est génial en tant qu'artiste et de pouvoir transmettre aussi comme ça aux jeunes générations. Voilà, c'est un savoir à partager aussi.
Et que tout le monde, d'abord, a le droit d'écrire. Tout le monde peut dire je suis auteur, j'écris des trucs. Et même, je peux faire des livres. Il y a beaucoup de gens en poésie qui le font, fait des carnets de... c'est des pièces uniques hein, à chaque fois, parce qu'ils les peignent même quasiment à la main et tout. Mais ça fait des très très beaux objets, des livres objets comme ça. Et là, ceux-là, ben, ils sont imprimés, donc ils ont un livre reproductible. C'est-à-dire que ben, s'il leur en faut 10 pour les 10 tatas, les cousins et cousines, eh ben ils se mettent sur l'imprimante et puis avec papa et maman, eh ben ils fabriquent leur bouquin et puis c'est un vrai livre quoi. Et ça, c'est la fierté quoi. J'espère que parmi les, je pense, j'ai peut-être eu 200 ou 300 gamins à qui j'ai appris ça. Et qui ont fabriqué, hein, on voit des photos avec la perceuse électrique, hein, comme moi, avec la petite perceuse électrique, en train de coudre leur bouquin, hein, et ben, à qui ça aura donné l'idée de dire, eh ben, quand je serai grand, j'écrirai, et j'aurai des livres. Alors, je dis pas que je ferai des livres, mais en tout cas, j'aurai des livres. Voilà. Parce que ce qui est très dur pour les auteurs, c'est que on est dans une civilisation où il y a ceux qui peuvent et ceux qui n'ont pas à. Voilà. Et quand on a décidé en haut que tu n'as pas à faire des livres, t'as pas à t'exprimer, t'as qu'à aller jouer au boulot, tout ça, eh ben, tout est fermé, quoi. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé à Lyon il y a 15 ans de ça. On m'a expliqué, il y a une énorme association, hein, qui gère la poésie, et même le printemps des poètes pour toute la région Rhône-Alpes et Auvergne. Donc, je me présente, voilà, j'aimerais bien rencontrer des collègues, hein, auteurs, et puis vous montrer un peu mon travail, voir le travail d'autres. Et non, c'est pas possible. Pourquoi? On ne peut pas prendre tout le monde. Et j'ai un rideau d'acier qui est tombé devant moi, et il ne s'est jamais relevé. C'est hallucinant. Et donc, je pense qu'il y a un énorme problème par rapport à l'écriture et par rapport à l'art en général. Bon, ceci dit, ça ne m'empêche pas de faire mes livres. Et puis,
moi, je partage ton avis, et puis je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes des fois aussi, et puis s'arrêter à ces barrières-là, justement, les outrepasser pour pouvoir continuer derrière, quoi.
Alors, moi, la solution que j'ai trouvée, parce que j'ai envoyé des dizaines et des dizaines de textes à des éditeurs, et si on lit ma pièce, j'ai écrit une pièce, là, en 2012, qui s'appelle « Dissolution d'un ectoplasme ». Elle dure 4 heures. C'est le désarroi, le désarroi jusqu'au bout, d'ailleurs, jusqu'à l'accomplissement, d'un homme qui a dessiné, qui a peint, qui a écrit et tout, et à qui toutes les portes ont été fermées. Pas qu'il était quelqu'un qui a rien à faire là, quoi. Et c'est terrible, cette pièce. Terrible. Et c'est vraiment le monsieur Terneuve, Julien Terneuve, c'est moi, quoi. Mais il fallait que je le dise, parce que c'est un drame terrible pour un auteur qui est autorisé à monter dans les hautes sphères, il faut toujours se poser la question, on a enterré combien d'auteurs et autrement, talentueux, qui avaient des choses à dire, et qu'on a enfermé dans des caves. Moi, j'appelle ça dans des culs de basse-fosse. De désarroi, moi, j'ai vu des gens arrêter de peindre, j'ai vu des gens arrêter d'écrire, des gens détruire leurs œuvres parce qu'ils savaient pas quoi en faire sauf les mettre chez eux ou chez leur grand-mère, quoi.
Alors, excuse-moi, Denis, je vais t'inviter à faire une deuxième lecture.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire partager aux auditeurs?
Eh ben, peut-être le grand coup de gueule de Monsieur Terneuve. Quand, à un moment, Monsieur Terneuve, dans cette fameuse pièce, il s'approche du public et il pousse son cri. Alors, son cri, c'est une métaphore sur les tailleurs de pierre. Il fait ça. Comme une eau noire, âcre, envahissante, sournoise, inéluctable, irréversible. L'homme est un animal de conviction, de proposition, de construction, de combat. Le combat d'un homme pour ce qu'il offre en richesse au monde et son honneur, sa dignité. Tout humain doit pouvoir poser sa pierre à la construction de la maison commune. Quand ma pierre et ta pierre se ressemblent comme deux gouttes d'espoir en des jours bleus, pourquoi ma pierre ne pourrait côtoyer la tienne? Pourquoi la mienne ne saurait trouver sa place de force et de cohésion dans la structure de l'édifice? Pourquoi? Quand, rangée après rangée, se haussent les murs jusqu'au vertige des nuées, quand la fête bat son plein de ceux qui ont déposé de leurs mains leur offrande de granit, quand le vin de la fraternité unit dans l'allégresse le peuple des maçons et des charpentiers, qu'est-ce que je deviens, moi, avec ma pierre reniée, que j'avais pourtant savamment et amoureusement taillée? Que deviennent-ils tous ceux que l'on a éconduits au-delà du chantier avec les chiens et les maraudeurs? Quand 10 fois, 100 fois, 1000 fois, l'homme s'est heurté au refus des contremaîtres et de leurs sbires, quand 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il s'est vu repousser à l'embourbement des fossés d'indignité, l'homme, abasourdi de détresse et de désespoir, hagard, se tient longtemps debout sous la pluie d'orage, les bras ballants, le regard happé encore par la vision de cette construction qui se fait sans lui. Et c'en est bien fini pour lui du rire clair des enfants qui jouent, des regards malicieux qui tricotent à mailles multicolores des souvenirs indélébiles. C'en est bien fini des projets de maisons grand ouvertes au vent du soleil blond et d'amitié vagabonde. C'en est bien fini. Je suis la pierre refusée. Je suis la pierre qui n'a pas eu sa place dans le dessin des architectes. Je suis la pierre abandonnée, vive à la boue du chemin, car l'homme et sa pierre ne font qu'un. Il n'est pas de pierre taillée sans les mains de l'homme, sans l'amour de l'homme. L'homme ne peut être pris sans son offrande de pierre ciselée, car l'homme et sa pierre ne font qu'un. Qui refuse la pierre de l'homme dénie à l'homme son humanité. Voilà, Monsieur Terneuve vient de dire ce qu'il avait sur le cœur au public et qui regardait la pièce.
Merci beaucoup.
C'est dur, hein, je veux dire, j'ai des larmes aux yeux.
Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les artistes que tu affectionnes ou qui t'ont influencé donc dans les différents domaines que tu aimes et dans lesquels tu pratiques une activité?
Oui, alors tout à l'heure, je parlais de Nicolas Roméas, avec qui j'ai appris à faire du théâtre pour la première fois. Hein. Et donc, lui, il était auteur aussi. Et il a écrit un truc génial qui s'appelle « Loup entouré de chiens à la tombée du soir ». C'était une pièce, un monologue d'une heure et demie d'un roi fou qui a été emprisonné, voilà, qui est jeté en prison dans une geôle par son peuple. Et je l'ai vu monter, cette pièce, et je l'ai vu répéter, et je l'ai vu jouer par un acteur italien, Luciano Baldelli, je me rappelle même son nom, c'était en deux, ça se passait en 87, tu vois, un truc comme ça. Et puis, un jour, je me suis dit, un jour, je serai le loup. Et, en 2014, donc, j'étais à Lyon depuis déjà, ça y est, j'étais monté à Lyon et intégré au petit théâtre Carré 30, et je rencontre un metteur en scène, et je m'étais dit, un jour, je serai le loup, et ce metteur en scène, je vois qu'il faisait des beaux trucs, et je lui dis, est-ce que tu pourrais m'aider à monter un texte que je veux dire depuis 27 ans? Et il me dit, oui, montre-moi le texte, je vais passer le texte de ce cri loup entouré de chiens. Il me dit, bah, allez, vas-y, on répète, et on a attaqué. Et donc, en 2014, j'ai eu l'immense bonheur d'être enfin le loup, le roi fou enfermé dans sa geôle et qui a paroxysme de colère, de bêtises, il se prend pour l'envoyé de Dieu sur terre pour commander les hommes. Enfin, c'est tout un délire et je me suis régalé à jouer ça. Donc, le texte de Nicolas Roméas, ouais, loup entouré de chiens à tomber du soir, c'est un sacré truc. Et puis après, j'ai été beaucoup touché, moi, par Cavana, François Cavana, qui était donc, qui écrivait les encyclopédies, les Rital, les Ruskoff, et puis qui était à Charlie Hebdo, bien sûr. Hein. Et j'ai quelque chose qui, quand Cavana est mort un an avant le drame de Charlie Hebdo, et je me suis dit, je suis presque content qu'il soit mort de maladie avant, qu'il ait pas eu cette souillure sur lui, quoi. Voilà, qu'on l'ait pas piétiné, qu'on l'ait pas. Voilà. Et lui, il avait la liberté d'écriture, les phrases avec trois mots, sans verbe, sans machin. Il était libéré complet. C'était un de ses, il en parlait, quoi. C'était une de ses façons d'écrire, de liberté d'écrire, quoi, de se désapprendre, d'être obligé de mettre un verbe, un complément, un complément d'objet direct, etc. Voilà, et moi, il m'a beaucoup inspiré dans sa liberté et puis dans son approche de regard social aussi qu'il avait. C'est un sacré bonhomme, quoi. J'aime beaucoup Giono, Le Grand Troupeau, par exemple, tu vois, Le Grand Troupeau. Waouh, ça, c'est un texte, il faut le lire, hein, c'est sur la guerre de 14, les gars dans les tranchées et tout, et Giono qui a écrit ça. Ça m'a profondément touché, quoi. Et puis, Zola. Alors, Zola, on l'étudie au lycée, ou peut-être même au collège. Et ça, ça ouvre les yeux, parce que ça, c'est lui, il montrait le monde, il montrait la misère, il montrait les injustices, il montrait ce qui existe encore, hein, cette société, ceux d'en haut, ceux d'en bas, et voilà, quoi. Et donc, je recommande beaucoup Zola. Et puis, après, il y a un texte qui m'a, alors, de femme, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché, c'est Le Journal d'Anne Frank. C'est... Quand on a plongé dans ça, eh ben, on voit ce que c'est que la détresse, la douleur, l'incompréhension de la vie presque. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, moi, dans un de mes textes, après qu'on retrouve dans un de mes récits poétiques, à un moment, j'écris un texte sur le plancher grince derrière la porte. Voilà, cette trouille qu'on a quand on entend du bruit qui menaçant derrière sa propre maison, derrière sa propre dans l'escalier, sur le palier de la porte, quoi. Et que tout le monde n'ose plus respirer dans la pièce. C'est... Ouf. Voilà, parce que ça m'avait marqué, il y a une troupe qui avait monté le Journal d'Anne Frank à Lyon, j'avais vu ça. Et fou, voilà, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité ? Ben, je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément évident pour rencontrer du public ou proposer des choses, mais où on peut te rencontrer prochainement ? Et quels sont tes projets à venir ?
Alors, je viens d'arriver, là, j'ai changé de région il y a 2 mois, donc je suis tout nouveau à Châtellerault. Et pour le moment, eh ben, j'ai vu qu'une seule personne. Alors, pour lui proposer, parce qu'il y a une petite boutique de l'Office du tourisme qui propose... à des artistes locaux de montrer leur travail. Donc il y a plein de choses différentes. Et puis il y a quelques livres aussi, parce qu'il y a des auteurs ici, et aussi bien pour la jeunesse que pour nous. Et je suis allé voir la dame, elle m'a dit on va se réunir fin janvier, je parlerai de votre projet, je lui ai fait un gros dossier avec les photos, tout ça, de comme on pouvait voir les photos sur mon blog, quoi. Et puis j'ai monté un projet, et voilà, et puis j'attends des nouvelles. Sinon, eh ben, j'attends quand la vague virus sera partie, ben, de pouvoir ressortir ma carriole, d'aller sur les marchés, puis d'aller dans les villes à côté. J'aimerais bien aller à Poitiers, j'aimerais bien aller à Châteauroux, j'aimerais bien monter, aller à Limoges, j'aimerais bien, et puis.
Venir nous voir aussi.
Ben, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'aimerais bien monter à Brest avec ma cariolinette. Et vous la montrer, vous la présenter, et puis lui dire, regarde, on a des amis ici, et voilà. Parce que je l'appelle ma carriole, la carriole, c'est, j'ai acheté quand j'étais à Fort-Calquier, un vieux landau d'enfant, j'ai enlevé le caisson, et puis j'ai fabriqué comme un meuble, sur lequel sont exposés mes livres et mes cartes poétiques, et Donc, je promène dans les rues. Quand j'étais à Lyon, ben, je vivais beau, je promenais, je faisais des tours d'une journée complète dans les rues en mangeant un sandwich, quoi.
Oui, et puis les auditeurs, s'ils se rendent sur ton blog, effectivement, pourront voir les photos de ta carriole. Et ouais. Nous, bah, dès que faire se peut, qu'on pourra reprendre vraiment les événements, les activités avec le collectif, on t'invitera avec plaisir à venir à Brest et on t'accueillera pendant quelques jours, ce qui te laissera l'occasion de rencontrer les gens aussi.
Ah ben, avec grand plaisir. Et même, ça a été... C'est pour ça que je me suis rapproché de l'Atlantique. Ça a été une de mes motivations d'aller par là en me disant « Je vais pouvoir aller leur serrer la louche, leur faire la bise et puis voilà, que partager avec eux des moments qui ont l'air vachement beaux. » Comme quand je vois les photos, quand tu en parles, dans les grands jardins. Mais j'imagine, je vois pas trop exactement comment c'est, mais je me dis « Ça doit être sacrément chouette, quoi. » Ça doit être des moments... d'humanité qui sont essentiels à la vie, quoi. C'est du soleil.
En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir rejoint le collectif depuis aussi longtemps, d'être aussi fidèle, et ça a été un plaisir de réaliser cette interview aujourd'hui pour toi.
Ah ben, franchement, c'est un immense bonheur que vous m'avez fait. Quand tu m'as appelé l'autre jour pour me le proposer, franchement, ça m'a... J'ai l'impression de respirer une énorme bouffée d'oxygène et de me dire, ça y est, il y a un appel, il y a une main qui se tend et ce sera... Je rêve tellement depuis longtemps que je pourrais venir vous voir, que là, ça c'est tout pur bonheur de rencontrer tout le monde, tout ce monde là-haut qui sait ce que c'est que du partage, voilà, du vrai partage humain. Et ça c'est ce qu'il y a de mieux, ça vaut toutes les valeurs du monde.
On est bien d'accord, c'est un des principes fondamentaux du collectif Synergie, justement, et nous, ça nous fait du bien aussi de rester proche des artistes. Vu le contexte actuel, c'est vrai qu'on en a tous grand besoin.
Ah oui, ça se sent, hein. On voit partout des troupes qui disent vivement que, et puis mince, encore raté. Par exemple, tu vois, j'ai des amis à Lyon, une jeune femme qui est vraiment extraordinaire, qui écrit des textes, qui fait de la peinture et tout, et ça fait trois fois qu'ils reportent déjà, parce que chaque fois qu'ils doivent présenter un spectacle, c'est un spectacle, elle, qui est pas n'importe quoi, tu vois, c'est sur les enfants en Afrique qu'on envoie dans les mines pour aller chercher les petites pierres pour mettre dans les téléphones, tu vois, le genre. Et elle a écrit ça, une jeune femme qui a 25 ans, quoi, qui est extraordinaire. Et c'est reporté de mois en mois, et ça me fend le cœur pour eux, quoi, qu'on vit quelque chose. Hein.
Alors Denis, bah, je te remercie encore une fois, et bah, je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt.
Bah, moi je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous, et puis merci. Et bonne continuation surtout, hein.
Merci d'être sur la même longueur d'onde que nous. Moi-même, l'équipe de l'association Collectif Synergie ainsi que les artistes, vous souhaitons une bonne année et vous adressons nos meilleurs vœux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée à tous.